Je ne vois pas congolais avec Alain Gong de la présentation.
Bonsoir. Relance des activités de la NIBA. Le gouvernement central promet de verser 10 millions de dollars dans un proche avenir sur les 20 millions attendus. Quelles sont les priorités dans l'affectation de cette somme et que faut-il pour relancer effectivement la NIBA? Trois invités participent à cette émission. Dieudonné Kabamba, vice-président de la délégation syndicale de la NIBA. Monsieur Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Michel Soumoué, analyste économique et directeur général de la Fédération nationale de petites et moyennes entreprises du Congo Fenatec. Monsieur Soumoué, bonsoir.
Bonsoir, monsieur journaliste.
Rem Kamoigna, coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur minier pour mines, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Monsieur Kamoigna, bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes très nombreux à réagir. Robert Baumé de Bukavu Sud qui vous dit relancer la NIBA avec une somme de 10 ou de 20 millions de dollars, c'est bien, mais la relancer réellement d'abord en dehors des interférences politiques serait mieux. Sinon, on irait de relance en relance. Blanchard Loana de Mbandaka, l'Équateur. Pourquoi le gouvernement central ne peut-il pas mettre des moyens une fois pour toutes pour qu'il fasse une véritable réforme de la NIBA qui pourrait l'aider à financer ne plus que la tenue des élections qui s'annoncent? Merci de nous suivre en Mbujimayi dans la province du Kasaï Oriental sur 93.8 FM et partout au monde sur RadioKapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Au Kasaï Oriental, la reprise des activités de production à la société minière de Bakwanga Neba, c'est pour bientôt 10 millions de dollars seront versés dans cette entreprise minière d'ici le mois de septembre prochain. C'est ce qu'a annoncé le ministre de portefeuille le week-end dernier en Mbujimayi, Jeannine Mabunda, qui accompagnait son collègue ministre des Mines, était chargé par le gouvernement central de se rendre compte du lotissement par la province du site de la NIBA, mais aussi de l'exploitation de diamants par les dragues privées dans le polygone minier de la NIBA. On écoute Jeannine Mabunda au micro de François Tchibenge.
Nous n'allons pas donner les 20 millions de dollars en un seul coup. Il faut comprendre aussi que les gens nous donnent un défi. En disant oui, mais on donne souvent, on ne voit pas de résultat. Moi, je dis, on ne peut pas condamner les entreprises du portefeuille de l'État sans les mettre à l'épreuve en leur donnant les moyens financiers pour faire leur redressement. Et donc, je pense qu'entre la période de la fin du mois d'août et la fin du mois de septembre, on va faire une première phase de 10 millions de dollars. Et donc, ce ne sont plus des promesses puisque avant de venir, j'ai dû signer avec le ministre des finances, à la demande du chef de l'État, des instructions à certains pétroliers avec lesquels nous travaillons sur le dossier NIBA. Donc c'est quelque chose de transparent, ça ne doit pas faire l'objet d'une polémique. Il était normal aussi, si on veut redresser notre secteur minier, en commençant par la NIBA, que le gouvernement exécute ses promesses.
Avant d'aborder les priorités, l'EMS Kamoigna, je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur minier pour mines, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Monsieur Kamoigna, c'est la énième fois qu'on annonce la relance de la NIBA. On dit généralement à mauvais diagnostic, mauvaise thérapeutique. Quel est donc le vrai mal dont souffre la NIBA?
Oui, je pense que vous le dites. Le problème de la NIBA, c'est un problème à ce jour de moyens financiers. Vous savez, pendant de nombreuses années, la NIBA a été gérée sans que le gestionnaire ne pense à renouveler l'outil de production. À ce jour, si la production de la NIBA a été arrêtée, c'est parce que l'outil est devenu vétuste. Et étant donné que la qualité de diamant qui était exploitée dans les années précédentes a pratiquement disparu, à ce jour, la NIBA est obligée de passer à l'exploitation de la kimberlite, qui exige une nouvelle catégorie d'investissement en unité de production. La NIBA est appelée à acquérir ses unités de production pour arriver à produire, et manquant des moyens internes au sein de la société, voilà les difficultés qui expliquent la descente aux enfers de la NIBA et qui expliquent au fait la répétition de toutes ces difficultés en dépit des interventions qui ont été faites. Je pense que pour le moment, il ne faudrait pas qu'on parle rapidement du plan de relance, parce que la NIBA ne produit pas les diamants pour le moment. La NIBA se trouve complètement à l'arrêt. Le montant qui doit être injecté, c'est pour permettre d'abord qu'il y ait une reprise minimale de la production de l'amiba, qu'on puisse arriver à certifier ses réserves. Enfin, on cherche des financements assez importants qui doivent maintenant nous amener vers une véritable relance de l'amiba. Donc ça, ce n'est qu'une phase intermédiaire et je ne me permettrai pas de parler d'une relance. Il faut d'abord parler en termes de reprise de la production de l'amiba.
Voilà, nous allons aborder tout à l'heure, comme je l'ai dit, ces 10 millions hein, qui, comme vous l'avez dit, pour relancer l'amiba, mais... Le problème de l'amiba, si je comprends vos propos, est uniquement financier, d'ordre financier.
Oui, donc à ce jour, c'est un problème financier. Il n'y a pas de ressources au sein de l'entreprise. L'entreprise ne sait même pas payer son personnel. Parce que plusieurs mois que le personnel n'est pas payé, l'entreprise ne dispose pas d'autofinancement. Et la plupart des bailleurs de fonds qui prêtaient de l'argent à l'amiba ne savent pas le faire parce qu'ils se disent que l'amiba n'a plus de capacité de financement. Et pourquoi la pas construit par le financement, c'est là et tributaire de la mauvaise gestion qui a prévalu pendant les passés.
Dieudonné Kabamba, vous êtes vice-président de la délégation syndicale de l'AMIBA. Est-ce que vous pensez, comme M. Kamoigna, qu'à ce jour, le problème de l'AMIBA est financier, uniquement?
Merci beaucoup pour la question. D'ailleurs, ça commence à être un peu très embêtant d'en parler de temps à autre. Parce que on a trop parlé MIBA, et on continue toujours à être à la case du départ. Avant de répondre à votre question, je commence par deux petites remarques. La première, c'est le titre que vous donnez au thème du jour. Je crois même que l'a si bien dit, en tout cas pour la MIBA, ce n'est pas, nous ne nous attendons pas aujourd'hui avec les 10 millions à une relance. Donc, nous attendons à la reprise. Donc, c'est dire que il y a deux verbes qu'il faut dissocier. Ça, c'est la deuxième remarque. La relance demande beaucoup de moyens, mais pour le moment, nous pouvons plutôt parler de la reprise. La reprise, c'est une reprise minimale, tout simplement. Parce que depuis le 18 novembre 2009, il y a eu cessation d'activité à l'AMIBA. C'est-à-dire arrêt total de production. Aucun carat de diamant produit. Alors, pour l'instant, à part les services de gardiennage qui s'assurent ça et là, et le secteur médical, le secteur de la surveillance et les corps enseignants, continue à appliquer normalement. Dans les autres, comme je l'ai dit tantôt, c'est les services de gardiennage. Donc, il n'y a rien qui se fait à l'AMIBA. Donc, c'est question de moyens. Alors, les moyens qui s'annoncent pour le moment, on nous parle de 10 millions, on nous promet 10 millions, c'est juste pour la reprise. Une reprise, comme je l'ai dit tantôt, une reprise minimale. Donc, on peut considérer aujourd'hui l'AMIBA comme étant un malade qui est dans le coma et qui a besoin d'être réanimé. Et sa réanimation nécessite ne fût-ce qu'un petit moyen pour qu'il puisse se retenir sur des simples. Voilà tout ce que je peux te dire à ce niveau. Et corriger vos titres sont tellement éléphantesques. Au point où je réveille même les chats qui dorment, à l'AMIBA, on a besoin de la relance et de la reprise pour le moment et non de la relance parce que ça demande beaucoup d'argent.
Voilà, alors je ne vois pas en quoi notre thème a péché, hein, de Dieudonné Kabamba. Alors, Michel Somoué, vous êtes analyste économique et directeur général de la Fédération nationale de petites et moyennes entreprises du Congo. En attendant d'aborder les 10 millions, quel est, à votre avis, le véritable problème de l'AMIBA? Est-il toujours d'ordre financier, comme l'ont dit Lems Kamoigna et Dieudonné Kabamba? Est-ce votre avis aussi?
Je pense à l'AMIBA, il y a deux principaux problèmes. Le premier problème est actuellement d'ordre financier, parce que c'est un problème général à toutes les entreprises publiques, et d'ailleurs toutes les entreprises congolaises. Nous souffrons tous ces problèmes financiers qui sont des moyens trop précaires, l'absence des institutions de financement intérieures qui puissent nous donner de quoi nous relever, de quoi nous activer sur le terrain de la mise en valeur de nos ressources. Le deuxième problème, en ce qui concerne particulièrement l'AMIBA, qui est une entreprise communiste, c'est, à mon avis, un problème d'ordre politique, ou plutôt politico-managérial. Il me semble qu'il y a quand même à l'AMIBA un problème de gestion responsable de la part de ceux qui tiennent le pouvoir. L'AMIBA a souvent perdu de vaches à lait pour des intérêts politiciens qui n'ont pas été forcément ceux de la population, mais des gens souvent au pouvoir se sont servis de l'AMIBA pour leur intérêt propre depuis plusieurs décennies. Donc la chute de l'AMIBA aujourd'hui était à mon avis tout à fait prévisible, bien que extraordinaire parce que l'AMIBA est en tout cas, probablement l'une des rares entreprises minières au monde engagées dans le secteur du diamant, qui s'est faillie. Je n'en connais pas une autre entreprise dans le monde spécialisée dans le diamant qui s'est faillie. Même quand dans les pays de l'entreprise, il n'y a plus de carats de diamant sur le sol, regardez ce pas même, les entreprises du secteur du diamant continuent à prospérer tous les jours. Je n'avais pas aucun cas particulier dans l'histoire de l'économie nationale.
Alors, quelles sont les priorités dans l'affectation de ces 10 millions de dollars promis à l'AMIBA pour sa relance? On écoute ce que fait Christine Toussé, président administrateur délégué de l'AMIBA, au micro de François Tubinge.
Donc, la relance durable de l'AMIBA exige des montants très importants qui avoisinent aujourd'hui 200 millions de dollars. Donc, le plan intermédiaire qui a été mis sur pied, il a pour objectif de d'abord certifier les réserves minières, une des conditions qui ont été exigées par les bailleurs des fonds pour l'obtention des financements qui sont requis pour une relance donc durable. Oui, par rapport à l'avance des 10 millions de dollars, bon, les grandes priorités, numéro 1, il y a la certification des réserves, donc on pourra y concentrer dans un premier temps plus ou moins 1,250 million de dollars. Et la deuxième priorité sera la réhabilitation donc de l'outil de production donc pour l'apprécier donc à reprendre donc les activités productives. On pourra consacrer plus ou moins 3,5 million. Une des priorités c'est également l'acquisition des principaux engins nécessaires pour la reprise de la production. Et là bon, on pourrait donc consacrer plus ou moins 5,5 million.
Madame Samonia, vous avez déjà commencé à aborder les priorités. Vous avez parlé tout à l'heure de la certification des réserves minières et Madame Toussé ajoute la réhabilitation de l'outil de production, l'acquisition des principaux engins de production. Comment vous analysez ces priorités telles qu'énoncées?
Oui, je pense que Madame Toussé vient de le dire, hein, les 20 millions correspondent à un montant total qui a été défini pour le financement de ces plans d'urgence ou des plans de remise de la production de l'AMIBA. Mais les 20 millions comprennent un certain nombre de rubriques. C'est-à-dire, là-dedans, c'est vrai, aujourd'hui, l'AMIBA, nous disons, outil de production est vétuste, il faut investir, il faut acheter les chars automobiles, mais l'AMIBA, c'est d'abord une entreprise minière. Et la chose la plus importante qui reste, ce sont ses réserves minières. Il faut commencer par protéger ces réserves minières et il n'y a pas meilleure façon de protéger ces réserves minières que remettre d'abord l'entreprise en production. C'est pourquoi on s'est dit, il faut certifier bien sûr ces réserves parce que la certification des réserves, c'est celle qui permettra de conforter au fait la position de l'AMIBA et permettre soit aux banques qui cherchent à financer l'AMIBA, soit à d'autres partenaires qui cherchent à s'associer à l'AMIBA, de se dire effectivement, même si nous mettons 150-200 millions aujourd'hui, il y a un niveau de réserve qui nous permet de rentabiliser notre investissement et de faire un retour sur investissement. Mais avant qu'on aboutisse cette situation de réserve, il faudrait d'abord que l'entreprise puisse même sauvegarder ses réserves-là. C'est pourquoi on s'est dit, la priorité, il faut faire une réhabilitation minimale des outils de production, remettre l'entreprise en production et vous certifier les réserves. Parce qu'il faut savoir aussi qu'en dans le cadre du secteur minier, les réserves d'une entreprise minière ont une valeur plus importante lorsque cette entreprise exploite. Mais cette valeur est moindre si l'entreprise n'exploite pas. Et ça, c'est un fait. Donc c'est pourquoi parmi les priorités, bien entendu, il faut arriver à certifier les réserves, mais il faut rapidement remettre l'entreprise en production. parce que cela va vous donner un double avantage. D'abord, de sauvegarder le patrimoine minier qui est au fait l'élément moteur qui justifie l'existence de la société, et ça va permettre, quand vos réserves minières seront évaluées, seront certifiées, de leur donner une valeur plus importante que les certifiées aujourd'hui pendant que l'entreprise est aux arrêts. Alors, c'est pourquoi pour moi je me dis que la priorité serait d'entamer rapidement la réhabilitation de toutes les productions, acquérir les autres engins qu'il faudra pour mener l'exploitation minière, remettre l'entreprise en production et amorcer maintenant la certification des réserves. Donc ça, ce sont pour moi les grandes priorités par ordre de préférence.
Mais tout à l'heure, Michel Somoué a évoqué un problème de gestion. Hein. Est-ce que vous pensez que cet argent ne va pas prendre d'autres directions?
Mais écoutez, les problèmes de gestion, Madame la ministre du portefeuille, elle vient de le dire, il y a un plan d'urgence avec des objectifs, avec des répartitions. Il y a des structures, aussi bien au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'État, qui doivent assurer les contrôles. C'est le trésor public qui les finance. Il ne faudrait pas qu'on retombe encore dans ce qu'on a connu par le passé, où on dit quand on injecte l'argent, l'argent ne donne pas les effets escomptés. Je pense qu'il est temps de mettre fin à cette façon de fonctionner. Si l'État injecte l'argent avec comme objectif de voir la production de l'AMIBA reprendre, de voir ses réserves être certifiées pour permettre à l'AMIBA de conclure des contrats de partenariat, il ne faudrait pas laisser l'argent aux gestionnaires et ne pas savoir ce qu'ils sont en train de faire avec cet argent. Je crois qu'il faut, au même moment qu'on les finance, actionner tous les mécanismes de contrôle pour veiller à ce que cet argent soit utilisé au fin pour lequel il est décaissé. Sinon, à quoi servirait toute la litanie de services de contrôle, d'inspection qui sont mises en place, aussi bien au sein de l'entreprise qu'au à des niveaux différents de services de l'État? Je crois que c'est important. Si les gestionnaires se sentent être libres, c'est vrai que c'est permettre un poste commercial sans qu'il est contrôlé, il est suivi, il est surveillé, et qu'on évalue l'évolution du programme pas à pas, je pense qu'il y a moyen de contourner. Et de contourner cela.
Dieudonné Kabamba, vous préférez hein, qu'on parle d'une reprise minimale. Madame Toussé a donné les priorités. Comment vous les analysez?
Bon, je ne peux pas le rejeter d'emblée. Ce sont des priorités qui sont importantes et qui sont irréfutables. Je crois que nous avons même déjà fait une étude ici sur place. Nous sommes conscients que si nous avons un peu de moyens, on peut se prendre en charge avec le peu de moyens, bien sûr, qui nous seront donnés par le gouvernement, comme on a promis de nous donner les 10 millions en première phase, ça peut nous permettre de nous prendre en charge ici sur place et de faire venir les quelques engins qui traîneront encore au Katanga. Mais la priorité des priorités, c'est l'engin, permettez-moi le terme, c'est l'engin humain. Parce qu'il a été payé il y a quelques jours, tout ce qu'il a eu est parti aux dettes, et il a acheté quelques mesures de farine, et il est resté mangé. Cet engin-là, c'est celui-là qui doit être la priorité des priorités. Bien sûr, pour certifier, on aura besoin des agents. Pour conduire les engins, on aura besoin des agents. Pour faire n'importe quoi que ce soit, on aura besoin des agents. Donc je pense qu'en plus de ces 10 millions, il y a eu une bonne dose de bonne volonté de la part des dirigeants de penser à l'aspect humain, donc au personnel qui continue à broyer du noir. Donc, les priorités que le comité de gestion s'est assigné et le gouvernement compte réaliser, ce sont des priorités réelles. Mais on n'exclut pas l'aspect humain. Donc, il faut tout sauter de l'esprit humain.
Michel Somoué, vous venez de suivre Dieudonné Kabamba qui souhaiterait qu'en plus des priorités énoncées par Madame Toussé Christine, qu'on ajoute en priorité la prise en compte de l'aspect humain, le travailleur même.
Ah, mais c'est important, je crois que quand on parle de la réhabilitation de l'outil de production, je pense que le facteur principal de la production, c'est le facteur humain. Et malheureusement, souvent, quand on fait des plans de relance, on ne pense pas au prix du facteur humain. qui est le salaire. Or, si le salaire n'est pas suffisamment motivé, il peut bloquer la machine, quelque part. Donc, c'est une performance possible. C'est important. Mais ce que je voulais quand même dire, c'est que, en dépit du fait que je n'ai pas personnellement accédé aux détails du dernier diagnostic qui aurait existé sur la situation de la MIBA, pour savoir quelle est sa principale maladie et quels sont les véritables soins qu'il faudrait lui apporter, j'ai quand même fort peur que par rapport à ce que je sais de la MIBA il y a quelques années, c'est son problème qui coûte quand même entre 100 et 200 millions de dollars, j'ai fort peur que 10 millions de dollars soient un saupoudrage, une dilapidation des efforts, parce qu'en microéconomie, il y a ce que l'on appelle le minimum scale efficiency, c'est-à-dire l'échelle d'efficience minimum. C'est-à-dire le niveau de production minimum qui est considéré comme niveau d'efficience pour une entreprise. Si vous mettez des moyens, quel que soit qu'ils soient, en dessous de cette échelle minimum de l'efficience de l'entreprise, ça va être un simple saupoudrage, une dilapidation pure et simple, qui ne va servir qu'à alimenter la corruption et le retour de l'argent à ceux qui ont supposé justement protéger les intérêts de l'entreprise malheureusement.
Donc pour vous, toutes ces priorités dont a parlé Mme Toussaint, c'est du saupoudrage par rapport au montant à proposer en contrepartie.
En tant qu'économiste, je ne suis pas convaincu, mais je vous dis que je formule une réserve dans la mesure où je n'ai pas lu le diagnostic final de la situation de la MIBA. Mais franchement, de ce que je fais de la MIBA, à l'expérience, par rapport à l'ampleur de ce problème, qui ne coûte pas moins de 100 millions de dollars, en taille de 100 millions de dollars, j'ai fort peur que tout ce que madame a rapporté comme priorité, c'est le sens qu'elle s'appelait des thérapeutiques classiques que l'on connaît, mais qui risque de n'avoir aucun impact, de produire aucun effet par rapport à la situation de l'EBA si le groupe est trop profond. Si c'est une situation qui peut être réparée rapidement, la certification des réserves peut se faire facilement avec 10 millions de dollars. C'est déjà. Mais ça dépend du niveau de la destruction de l'entreprise. Mais je crois que ce niveau est tellement profond que 10 millions de dollars risque, à mon humble avis, d'être une pure et simple dilapidation des prix moyens.
Et à votre avis, qu'aurait-il fallu faire?
À mon avis, ce qu'il faudrait, je vais d'ailleurs confier au gouvernement, c'est que nous devons nous engager courageusement dans la recherche des moyens de financement costauds. Parce que le Congo est le pays, pratiquement le plus grand pays dans le monde, à disposer de ce qu'il faudrait appeler le collatéral le plus important, dont a besoin tout le monde sur le marché financier. C'est un pays qui ne peut pas manquer d'être financé sur le plan international si nous mettons en place un pays des structures efficaces, efficientes, en particulier si nous installons dans ce pays une industrie financière crédible. Et c'est là qui pourrait attirer des capitaux de par le monde pour les canaliser dans le secteur productif de ce pays. La MIBA n'est une entreprise, je répète, mais dans le secteur du diamant. C'est-à-dire une entreprise, et on dit « diamond forever ». C'est-à-dire, le diamant, c'est une valeur sur l'intérêt. C'est une distance, c'est une devise qui n'est pas épargnée. Tout le monde le sait. Donc, une entreprise comme la MIBA ne peut pas souffrir trop d'accéder à des financements importants si ceux qui doivent nous financer croyaient, tant soit peu, à notre bonne foi et à notre volonté de créer une économie dans ce pays qui puisse créer la richesse pour tout le monde.
Lemskamoanya, comment vous réagissez au pessimisme de Michel Somoy?
Moi, je pense que M. Somoy, quand il parle, il voit le problème de manière globale. Mais il doit aussi être au courant à la fois de l'évolution qui se passe au sein de l'entreprise et il doit aussi être renseigné sur les meilleures pratiques en matière minière au niveau international. Au niveau de l'entreprise, dans un premier temps, je sais qu'il y a eu plusieurs contacts qui ont été faits, soit auprès des banquiers, on a vu des banquiers sud-africains débarquer à la MIBA, soit auprès d'autres partenaires qui étaient prêts à s'associer avec la MIBA pour développer ensemble ces gisements. Mais quand vous demandez à un bailleur de fonds ou à un banquier de dire, voilà, donne-moi 200 millions de dollars, il doit se rassurer que l'exploitation qu'on va financer sera à même
de générer des ressources qui lui permettent de récupérer les montants qu'il a investis et de rentabiliser. Et qu'est-ce qui peut garantir à un bailleur de fonds que si je mets 200 millions dans mon IBA, au bout de 5-10 ans, je vais avoir plus que 200 millions? Ce sont les réserves minières exploitables. À ce jour, vous n'avez pas des études de faisabilité, vous n'avez pas de réserves minières qui rassurent la communauté financière internationale ou la plupart des partenaires. C'est pourquoi nous parlons de spécification des réserves. Un bailleur de fonds ou un partenaire, quand il vient, il n'a pas ces éléments, c'est comme s'il est en train de prendre un risque en blanc. C'est ce qui fait que tout ce qui a eu comme tentative de lever des fonds par la MIBA a échoué parce qu'on n'a pas de réserves qui ont été certifiées par une expertise internationale et qui démontrent que ces réserves peuvent permettre une exploitation à même de générer des ressources qui vont au-delà des montants qui seront investis. C'est pourquoi aujourd'hui on parle en termes de certification. Sinon, les bailleurs de fonds, tout comme les partenaires, ils ne viennent pas par bonne foi. Il n'y a pas de bonne foi en matière commerciale. Là, c'est la rentabilité. Les gens voient, est-ce que ce que j'aimais, je vais rentrer dans ce que j'ai dépensé et faire de la rentabilité. C'est pourquoi on insiste sur la certification des réserves. Ces contacts ont été pris et se sont soldés par... se sont bêtés à cette difficulté de dire, écoutez, on n'a pas de réserves qui soient certifiées par le statut international, et ça, c'est important. Mais ce que j'allais aussi vous rassurer, M. Sommoy et l'autre intervenant de la MIBA, c'est que dans les plans d'urgence qui a été prévu, on n'a pas oublié les facteurs humains. Je crois qu'il y a 4 millions sur les 20 millions, 4 à 4 millions et demi, qui étaient réservés uniquement à la paie du personnel, parce que nous nous sommes dit, le temps qu'on puisse réhabiliter l'outil de production de la MIBA, ça peut pour prendre 4 à 6 mois. Avant d'avoir la première production, le personnel qui doit travailler devra être payé. Je crois que ce montant a été budgétisé. Si aujourd'hui on libère une partie, dans cette partie, y compris aussi le paiement du personnel pour toute la partie qui sépare l'amorce de la réhabilitation de la production jusqu'à l'obtention de la première, donc du premier carat qui sera produit au niveau de la MIBA.
De Denis Kabamba, aux dernières nouvelles, hein, on apprendrait la nomination d'un nouveau PAD expatrié. Pensez-vous que ça fait partie des priorités, cette nomination?
Bon, tout ce que je peux te dire, c'est qu'en matière de nomination, de désignation des gestionnaires d'entreprise, la délégation sénégalaise n'a jamais été associée. Mais pour le moment, ça nous intéresse un peu parce que celui qui va venir, s'il a les moyens, je crois qu'il sera le bienvenu. Mais s'il n'a pas de moyens, que vient-il faire pour vivre dans les mêmes conditions? Nous attendons que les activités reprennent, que la situation se redresse. En son malin, lors de la relance, on peut accueillir un nouveau gestionnaire avec de gros moyens, et je crois que ce sera très utile. Et pour le moment, changer le comité de gestion pour nous envoyer quelqu'un qui va venir un main vide ou bien qui vient pour vivre la même situation, je crois que en tant que délégation syndicale, nous allons constater tout simplement un fiasco. Et même les travailleurs risquent d'être encore très très déçus. Donc, je demande au gouvernement de bien examiner la question, de voir s'il veut lui donner de tous les moyens possibles, non pas pour la reprise, mais pour une relance effective. Je crois que nous n'avons pas de choix. Hein? Nous allons applaudir. Mais si c'est pour les statu quo, je crois que, à mon avis, je trouve que c'est une question qui faut réexaminer.
Dieudonné Kabamba, il y a cet auditeur Chika Lailunga qui nous suit de Londres en Grande-Bretagne qui dit, je me demande si les 10 millions de dollars que le gouvernement prévoit d'injecter seront suffisants pour moderniser l'outil de production dont la MIBA a grandement besoin, ou c'est juste une manière de chercher à calmer la tension qui règne au sein de cette entreprise.
Ah, c'est une très bonne question. Tu sais, il y a des personnes qui ne savent pas où aller, des laborieux travailleurs MIBA, qui veulent bien pour voir leur société se redresser. Ils disent eux-mêmes, moi-même je dis que avec les 10 millions, s'ils sont bien gérés, nous pouvons nous remettre debout, même en patronant, ce que j'ai appelé ici une reprise d'activité minimale, pour nous produire ce peu de carat, de sorte que nous ayons une certitude de notre lendemain. Mais les 10 millions ne suffisent pas. D'ailleurs, vous avez suivi dans les priorités, selon le plan du comité de gestion et même du gouvernement, les 10 millions c'est pour la réhabilitation de l'outil de production qui est vétuste, pour les intrants, et la feuille humaine, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, n'est pas prise en considération. Même les 10 millions ne suffisent pas. D'ailleurs, je vous dis, pour la vie actuellement, il faut au moins plus de 200 millions de dollars. Donc, les 10 millions ne suffisent pas.
Michel Somoué, il y a cet auditeur Augustin Mwango de Kindo Maniema qui dit « Je crois que notre gouvernement est habitué à promettre sans réaliser. Je me demande pourquoi ces interventions viennent toujours quand la situation devient pire et pourtant gouverner c'est prévoir. Il serait mieux de privatiser les entreprises minières congolaises. »
Monsieur Mwango, il y a deux choses qui sont mitigées pour moi. Parce que je ne suis pas très favorable à la privatisation continue de l'environnement macroéconomique qui est le nôtre, qui est un environnement, on le sait, pourri, ça il faut le reconnaître, parce que tant qu'il n'y a pas un cadre économiquement crédible de privatisation, il ne faut pas s'y engager. Ça c'est un de deux. Lorsque l'économie d'une nation est encore trop faible, il faut faire attention avec la privatisation. Nous avons l'expérience de beaucoup d'entreprises privées dans ce pays. Regardez le secteur pétrolier. Depuis les années 60, combien le Congo produit-il de barils de pétrole par jour? Comparez donc la production du baril du Congo à celui de l'Angola, ce pays voisin. Peut-être que la comparaison n'est pas bonne, mais qu'il attend. Mais comparez ça au moins à Tchad qui vient de commencer l'exploitation pétrolière il y a quelques années. Mais ça n'a pas de commune mesure. Pourtant, c'est le secteur totalement privé qui exploite qui s'occupe de la production du pétrole chez nous. Alors, quand on regarde la plupart d'autres entreprises privées sur le secteur sensible, qui constituent en fait des denrées stratégiques de base, le Congo ne faut pas être fier de la privatisation, il faut le dire. Mais là, je voulais quand même rassurer mon frère Kamoya, que je pense que je vais aller un peu trop loin en parlant de mon pessimisme, mais je ne suis pas pessimiste, je suis réservé. Ce que M. Mwango dit est très important. Nous sommes dans un pays où nous sommes habitués à de très beaux discours. Je pense que ce sont les meilleurs discours du monde. Mais entre le discours et l'action, dans ce pays, nous avons l'expérience, c'est un océan énorme. Alors ça, quand même, il faut qu'on se dise. Il n'y a pas un seul mauvais discours construit à la télévision de la autorité politique. Aucun discours n'est mauvais. Mais c'est l'action qui n'existe pas. Donc ce sont des beaux poèmes, mais ce ne sont pas des acteurs. Ça, il faut dire la vérité aussi. Donc ce n'est pas faux. Si M. Kamoya estime que le plan qui a été élaboré est très beau, je dis qu'il est très cohérent. Mais il est trop faux, il n'est pas vrai.
Merci.
Parce qu'il n'est que dans la bouche de cet individu.
Merci, Michel Somoué. Deuxième partie de cette émission, que faut-il pour relancer effectivement la MIBA? On se revoit juste après le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 58 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
La relance effective de la MIBA exige des montants qui avoisinent les 200 000 dollars. On l'a suivi, Madame Toussé, le dire tout à l'heure. Lens Kamoya, vous l'avez également évoqué. Donc, si à ce jour, on a 200 millions de dollars, la MIBA reprend.
Oui, écoutez, c'est-à-dire que c'est pas comme par un bâton magique.
Hein. Je crois
que nous sommes dans une entreprise minière. Dans une entreprise minière,
comme l'AMIBA, nous avons dit au départ, l'AMIBA était en train d'exploiter les diamants de Kitrik. Actuellement, l'AMIBA est obligée de passer à l'exploitation du diamant kimberlitique. Ça exige qu'il y ait des moyens plus importants qui soient mis. Il y a eu des études sommaires qui ont dit, pour réunir l'investissement nécessaire, arriver à avoir une production durable et croissante, le montant c'est autour de 200 millions. Ces 200 millions se répartissent entre un certain nombre d'investissements qui doivent être réalisés. Mais pour avoir des chiffres avec vous de précision, c'est-à-dire qu'il faudrait bien l'instant qu'on a certifié les réserves, qu'on puisse encore affiner les études de faisabilité. Parce que nous devons le reconnaître par le passé, il y a eu des investissements qui ont été réalisés à l'AMIBA, qui s'avèrent aujourd'hui comme étant des éléphants blancs. Donc ça, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention et dire ce n'est pas seulement l'argent. En plus, c'est l'argent, il faut une bonne expertise, savoir comment on investit et avoir un bon plan qui permette que les moyens qu'on va mettre puissent permettre à ce qu'on puisse arriver à atteindre les objectifs envisagés. Les estimations sommaires, les évaluations sommaires, dans les 200 millions, comme une base minimale acceptable qui puisse permettre à l'AMIBA de moderniser son type de production, de l'adapter par rapport maintenant à la nouvelle configuration minérale des diamants qui doivent être exploités et de relancer de manière durable au niveau de sa production.
Alors, l'Emstamonia, ce changement, permettez-moi le terme, hein, un peu intempestif de dirigeant à la tête de MIBA, facilite-t-il aussi la tâche pour la relance de cette entreprise?
Oui, bon, c'est vrai que dans toute gestion, à tout moment, les changements de dirigeants, cela crée une certaine discontinuité dans la gestion de l'entreprise et cela peut faire en sorte que chaque dirigeant nouveau qui vient, il cherche à remettre les compteurs à zéro ou il veut mettre tout à plat, il veut mettre en place son plan. Et ça, souvent, c'est la cause de beaucoup de tâtonnements et ça entraîne parfois des retards dans l'exécution de différents plans qui ont été arrêtés. Mais si, pour des raisons évidentes, les dirigeants soient fixés, ils se compromettent dans leur façon de gérer, ou pour d'autres motifs avérés qu'on doit les changer. Je crois que ça, c'est la décision souveraine de l'État, mais il faudrait quand même qu'on rentre dans le système de ce qu'on a appelé on nomme des mandataires. C'est des gens à qui on confie un mandat, par exemple, de 4 ou 5 ans. La personne sait que je suis là pendant 4 ou 5 ans. Il propose son programme et vous laissez les gens progresser ce programme et vous évaluez ce programme à la fin pour voir s'il a accompli ce qu'il avait prévu ou pas. Et si vous le mettez aujourd'hui, il met en place un plan et qu'avant même qu'il commence à le réaliser, vous le changez parfois pour des motifs qui ne sont pas avoués, soyez sûr que, au fini, c'est l'entreprise qui est en train d'en payer le prix. Parce que vous ne vous retrouvez pas avec un plan, avec un schéma, avec un plan de mise, vous êtes en train de suivre, vous aurez autant de plans qui seront mis en place ou élaborés par chaque management qui va passer à la tête de la société.
Merci. C'est évident. Dieudonné Kabamba, que faut-il pour vous pour que l'AMIBA soit relancée effectivement?
Bon, pour moi, je l'ai déjà dit, hein, il faut les moyens. Il faut les moyens si l'AMIBA plus ou moins 250 millions. Peut-être que l'AMIBA peut se redresser, elle peut être effectivement relancée. Les autres aspects, je crois que quand les gens ont les moyens, ils peuvent se discipliner, ils peuvent s'organiser, et ils peuvent, comme ils tiennent encore à leur société, faire mieux. Je pense que tout ce que le gouvernement peut faire, et de donner à cette société, à l'AMIBA, le fonds dont elle a besoin.
Il y a cet auditeur, Yves Loubouli de Kinshasa, qui dit que ce qui est à craindre, c'est de voir les hauts cadres de cette entreprise entreprendre des missions de service à l'étranger dans le but de se faire payer des indemnités élevées pour que le gouvernement qui va disponibiliser ses fonds instaure un mécanisme rigoureux de contrôle afin de s'assurer une bonne allocation de ses ressources. Dieudonné Kabamba.
C'est difficile d'apprécier ou de mettre un jugement là-dessus. Il y a des missions qui sont sanitaires, de fait, qui nous rapportent quelque chose. Je peux donner l'exemple, par exemple, l'exemple de numéro 1 de la société, qui est obligé d'être sûr qu'il se sent, et juste pour obtenir, par exemple, un mois de salaire minimal. selon les informations à notre profession, pour avoir un mois de salaire minimal, il faut plus ou moins 21 signatures. Donc, il faut que ça parte d'un bureau à l'autre, et à chaque bureau, il y a toujours des barrages. Alors, quand une telle personne fait un temps assez long dans la mission, ça se juge toujours mal. Bon, il y en a effectivement qui peuvent sortir le pays pour des raisons techniques, pour des raisons de gestion. Bon, comme nous, de l'Organisation syndicale de choix, nous sommes informés de telles sorties, nous n'avons pas vraiment une réponse assez correcte à donner à cette question, parce que nous ne connaissons pas si souvent les raisons fondamentales de plusieurs autres sorties. Mais l'unique exemple que je vais donner pour les numéros 1 de la société, c'est pour dire que des fois, les sorties, quelquefois, elles sont nécessaires et utiles.
Merci.
Même si elles sortent, s'il faut le dire, budgétivore, mais des fois, ça nous rapporte quand même quelque chose. Elles sont des choses qu'il faut prévenir à l'avenir pour que ça ne puisse pas
Merci. Michel Somoué, vous avez soutenu que la RDC devrait s'engager courageusement dans la recherche des moyens costauds. À vous comprendre, on a l'impression qu'on dirait presque que la relance de la MIBA, c'est mission impossible.
Ah non, je n'ai pas dit que c'est mission impossible. Parce que je crois beaucoup dans ce pays, et je crois que le pays, c'est un petit pays, le Congo, et heureusement, il y a une situation qui n'est pas, qui n'est pas de faire avec son destin, il faut le faire. Et la mission de l'État d'Alba n'est pas une mission impossible du tout, c'est une question de volonté politique. Si les dirigeants du pays se déterminent sincèrement à sortir le pays de la crise, ils le feront. On a posé le problème des moyens. Mais lorsque ils examinent les statistiques de l'endettement extérieur des nations, aujourd'hui, j'ai l'impression que les moyens, il y en a à profusion. Ils nous passent au-dessus de la tête tous les jours. Mais il faut seulement avoir des structures, des infrastructures qui sont capables d'attirer ces moyens qui nous passent par-dessus la tête. Les moyens existent à travers le monde entier. Tous les pays que je vois sont en effet, y compris la Chine, le Mexique. Ils sont très endettés, y compris les États-Unis, la plus grande puissance du monde. Ça signifie qu'il y a quand même des pays qui savent accéder à une épargne qui risque d'être oisive quelque part. Un pays comme le Congo, qui a besoin de mettre en valeur ses ressources, notamment les minières, comme la Liban, n'a que deux possibilités. Ou bien nous engageons dans une politique monétaire intérieure responsable, sans peur, ou alors si nous avons peur, nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. Nous adressons au marché financier international parce qu'ils ont la force des moyens, mais que nous sachions nous y engager de façon intelligente.
Michel Comain, pouvez-vous conclure en un mot parce que l'émission va toucher à sa fin?
En un mot, je souhaite de confiance à MIBA et au gouvernement, s'il est sincère, de redresser la MIBA. Notre souhait est que la cité minière rayonne à travers le monde pour refaire de la ville de Mbujima et la capitale. Diamanteur du monde.
Merci. Dieudonné Kabamba, un mot aussi en guise de conclusion. Voilà, nous avons perdu Dieudonné Kabamba. L'Ems Kamoigna a conclué aussi.
Oui, moi je dirais que ça fait plus d'une année qu'on parle de ce plan de relance et de la libération de ces fonds par les gouvernements. Notre souhait que la promesse qui est faite cette fois-ci soit la bonne pour permettre cette entreprise de reprendre sa production et de jouer son rôle de poumon économique de la province du Kasaï oriental.
Merci. Merci Alain Stamoya. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint du projet d'appui au secteur minier promine, une structure qui dépend du ministère des Mines du gouvernement central. Merci à Dieudonné Kabamba, vice-président de la délégation syndicale de la MIBA, et à Michel Somoué, analyste économique et directeur général de la Fédération nationale de petites et moyennes entreprises du Congo, FENAPEC. Merci à vous également, chers auditeurs, de nous avoir suivis. du dialogue entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez cette émission sur notre site radiocapi.net ou réécoutez-la en FM à 4h15, heure de Kinshasa. Au revoir.
Tocati, tocati.